Et tout le plaisir est pour nous de recevoir aujourd'hui un mythe, une idole, une icône. Bonjour Dorothée.
Bonjour Sally.
Ah bah écoutez, hein, votre modestie du talent souffrir, que vous le vouliez ou non, bah c'est vrai que vous êtes une icône pour toute une génération dont je fais partie. La preuve, c'est qu'après votre retour triomphal à l'Olympia, après 14 ans d'absence, eh bien, c'est parti, vous allez remettre le couvert au Zénith de Lille le 17 décembre et le lendemain au Palais Omnisport de Paris-Bercy, où vous vous êtes déjà produite 56 fois.
58.
Vous êtes 58 fois, vous êtes le record féminin.
Pour l'instant, oui.
Oui. Michel Sardou, lui, c'est le record masculin avec 88 fois.
Ah oui, j'en suis loin, là.
Mais vous êtes fière ?
Bah oui.
C'est énorme, quand même.
C'est... Oui, je ne me rends pas tellement compte, ça ne s'est pas fait en un jour. Enfin, une seule année, je veux dire. Oui. C'est déjà plus facile, mais non, c'est marrant.
Bon,
c'est moi le record que j'ai pour l'instant.
C'est votre record. Votre papa pensait que faire de la scène ou de la télé vous aiderait à vaincre votre timidité maladive. Mm-hmm. Vous êtes vraiment d'une timidité maladive,
oui.
Dorothée ? Elle se traduit par quoi ?
Un trac monstrueux, tout le temps.
Oui.
Tout le temps, tout le temps.
Et votre papa vous a, votre papa avait raison ? Vous avez réussi à vaincre cette
pas
timidité ?
Pas du tout.
Ah d'accord. Et quand vous êtes sur scène, c'est le seul moment où vous arrivez à passer le cap, alors ?
Bah, disons qu'on est un petit peu obligé.
Oui.
Et c'est un petit peu comme... Enfin, je ne sais pas expliquer. Sur scène, c'est peut-être différent. Il y a l'ambiance, donc je suis obligée d'y aller. Mais en petit comité ou en interview radiophonique, je suis timide.
Mais vous allez bien là quand même ou pas ?
Pour l'instant, ça va.
Bon, bah, tant mieux. Vous savez qu'on en a pour une heure. Hein. Vous pouvez vous sentir à la maison. Ici, on est gentil, on est bienveillant.
D'accord.
Tout va bien. En 94, vous avez déclaré « Depuis le temps que je fais de la scène, j'ai toujours justement autant le trac et j'ai surtout la hantise de ne pas plaire.
Mm-hmm. »
Ça aussi, ça vous traverse encore l'esprit après tant d'années de succès ?
Pardon, décevoir, oui, c'est vraiment ma première angoisse.
Mm. Et vous pensez systématiquement, quand vous arrivez sur scène, que la salle peut être dans cet état d'esprit ?
J'y pense avant. Quand je suis sur scène, je pense surtout à chanter et à m'amuser avec eux quand même.
Vous aviez une pièce dans votre maison qui était entièrement consacrée aux cadeaux de vos fans, et notamment une collection de canards.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait de tous ces canards ?
Ben, je les ai encore.
Dans la même pièce ?
Non, ils sont un petit peu dispatchés partout maintenant quand même. Mais j'ai bien précisé, je ne fais plus collection de canards.
Donc vous ne faites pas un appel aux auditeurs là, si vous avez des canards chez vous. Ça, vous l'avez compris, vous ne les envoyez pas au 22 rue Bayard à RTL pour Dorothée. En tout cas, c'est Dorothée qui est votre invitée aujourd'hui jusqu'à 16h et ça nous fait bien plaisir de vous recevoir.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
Tout le plaisir est pour nous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous être fidèles tous les jours de 15h à 16h. Et aujourd'hui, on regarde dans le rétroviseur. On est à la fois dans le présent et puis aussi dans le passé qui nous réjouit grâce à votre présence dans ce studio, Dorothée. Votre vrai prénom, Dorothée, en fait, c'est Frédéric.
Oui.
Mais Jacqueline Joubert, vous avez rebaptisé Dorothée car elle pensait que Frédéric était un prénom trop androgyne.
Absolument.
Et elle n'avait pas entièrement tort puisqu'on m'a dit que vous étiez un vrai garçon manqué.
À l'époque, oui. Oui, non, je suis assez garçon manqué, oui, même encore maintenant.
Il y a encore des gens qui vous appellent Frédéric ?
Quelques familles, oui. Quelques
membres de,
quelques membres de ma famille. Je résume tellement vite les choses.
Est-ce qu'il y a une différence entre Frédéric et Dorothée ? J'entends par là, est-ce que vous arrivez, vous, à faire la différence entre le personnage public et ce que vous êtes réellement et profondément ?
C'est la même.
Ah, d'accord.
C'est la même. Ah oui, non, c'est trop compliqué de tricher.
D'accord.
On ne peut pas tricher de toute façon. On peut sur un laps de temps court, mais aussi longtemps, non, c'est pas possible. Puis ça demande trop de travail, de ménage. Non, je suis la même, c'est la même.
Est-ce que c'est pratique d'avoir un pseudo ? Par exemple, durant la période où vous vous êtes mise un peu en retrait des médias, est-ce que c'est pratique d'avoir un pseudo ou est-ce qu'on est toujours obsédé par le personnage aussi de Dorothée ?
Bah, y a pas de personnage, parce que je vous dis que c'est la...
D'accord,
je
suis y a la... vraiment pas de...
Non, okay. Pseudo, c'est devenu mon deuxième prénom, en fait. Faut dire que, lorsque j'étais petite, mon frère m'appelait Paulette.
Oui.
Donc,
pourquoi
j'étais
Paulette?
Allez savoir.
D'accord.
Ou parfois Marguerite.
Ah, pas mal.
Et maman, qui m'avait baptisé Frédéric, aux grandes dames de mes grands-parents, elle m'appelait Proserpine.
Proserpine.
Voilà, donc...
D'accord.
Non, les prénoms, ça peut être tout ce que vous voulez.
Alors, ce qui aurait pu donc dire être Proserpine Ochédé, c'est ça ?
Ochédé.
Ochédé, parce que ça, vous portez un nom originaire de la Somme.
Oui.
Vos parents sont originaires de la Somme.
Mais oui, du coup, oui.
Bon, en tout cas, vous êtes né un 14 juillet à la clinique des Bellefeuilles à Paris. Et enfant, vous n'aimiez pas votre anniversaire ?
Bah, disons que c'était pas sympa le 14, tout le monde était en vacances, donc j'avais pas de fête.
Vous vouliez pas faire la fête, oui.
Et on m'avait dit que le feu d'artifice c'était pour moi, et le jour où j'ai appris que c'était pas pour moi, j'étais terriblement déçue.
Aïe aïe aïe, on vous a fait le coup du Père Noël,
non, pas
de
le Père
Pâques.
Noël.
Ah non, vous n'avez jamais cru au Père Noël ?
Non, pour pas
d'accord.
Que je sois déçue justement. Donc le feu d'artifice c'était pas pour moi, donc déjà.
Hein. D'accord. Ok. Vous avez reçu une éducation très stricte.
Oui.
Ça se traduisait comment ?
Être bien élevé, normal, quoi, c'est une question normale.
Oui. Mais vous pouviez, quand vous étiez adolescente, vous pouviez être, parce que vous étiez une adolescente gay, vous étiez visiblement espiègle, vous aviez déjà très bien ce que vous vouliez.
Mais pas rebelle.
Mais pas rebelle, d'accord.
Non, okay. Une jeune fille de bonne famille, comme on dirait maintenant.
Bon, votre papa, il était ingénieur,
ouais.
Il était musicien, il chantait très bien. Il avait failli chanter dans l'orchestre de Reventura, mais ses parents, à lui, avaient refusé.
Oui.
Est-ce que c'est lui qui vous a donné le goût de la chanson, notamment ?
Certainement, parce que dans la famille, nous sommes les deux à chanter, enfin, par les grands-parents paternels. Mais disons, quand on m'a proposé de rentrer dans cette aventure, il ne m'a absolument pas dit non, il ne m'a pas poussé non plus. Comme ses parents lui avaient interdit, il m'a dit « vas-y, ma fille ».
Vous dites « les images de mon enfance sont liées à mon père ».
Beaucoup,
c'est quoi,
oui.
Comme image
voilà, c'est dur comme ça, à blanc, mais il y a toujours, bah, moi, j'y pense toujours, hein, même s'il est parti il y a très longtemps. Je suis pas une fille et son papa, il y a une sorte de complicité très très forte, mais non.
Des images de Bretagne, parce que c'est vraiment.
Non, il venait pas en Bretagne, lui.
D'accord. Ok.
Parce qu'il travaillait tout le temps, c'est ça qui était assez énervant. Mm-hmm. Il était en train d'inventer des tas de systèmes, de mécanismes, etc. Non, il travaillait beaucoup trop.
D'accord.
Mais non, je sais pas, moi, on riait bien ensemble.
Alors votre truc à vous, hein, c'était pas forcément à l'école. Vous adoriez la gymnastique, vous adoriez les cours de langue, mais quand vous étiez enfant, vous détestiez par-dessus tout la rentrée de septembre, en particulier parce que vous deviez quitter votre Bretagne. Vous
d'une
y passiez toutes vos vacances.
D'une part, et j'avais surtout pas envie d'aller à l'école. Moi, ça me plaisait pas du tout. J'étais mieux à la maison.
Bon, mais là cette année, votre rentrée de septembre, ça vous va?
Parce oui, que là, c'est bien
vous
allez... passé.
D'accord, hein, parce que là, vous la ferez un petit peu en retard cette année, puisque ce sera le 18 décembre et non pas au mois de septembre à Bercy. C'est la rentrée de Dorothée qui est votre invitée aujourd'hui jusqu'à 16h.
Flavie Flamand.
Tout le plaisir est pour nous sur RTL.
Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Dorothée. Dorothée qui rêvait d'être égyptologue ou de faire Fred Astaire comme métier. Alors, pas vraiment la même chose. Hein.
Non, Fred Astaire, non, j'ai toujours adoré les comédies musicales, c'est certain. Et l'Égypte m'a vraiment toujours passionnée. Mais quand j'ai vu ce qu'il fallait faire pour passer le concours, je suis arrêtée là très vite.
D'accord, vous avez abandonné l'idée...
Il fallait du grec, du latin, du match. Oh là, les maths et tout, non.
En revanche,
pour gratouiller des pierres, pardon.
Allez-y, non, pour gratouiller des pierres et pour aller chercher des trésors, c'était pas...
Non.
Vous ne vouliez pas faire ça. Vous avez pris des cours de danse et de piano, hein, et à 11 ans, vous obtenez le 3e prix du concours Nérini en jouant une sonate de Mozart. Donc là, vous partiez vraiment vers Fred Astaire. Hein. Vous aviez déjà envie de faire ce métier ou pas?
Les cours de piano, c'est ma maman qui m'a forcé à le faire parce qu'il faut apprendre du piano. Cela dit, c'était une très bonne idée. Enfin bon, ça m'amusait pas trop.
Oui.
Les cours de danse, c'est parce qu'une jeune fille doit apprendre à danser. C'est pas mal non plus parce que ça m'a permis d'avoir certaines attitudes. Mais Ginger Rogers aux côtés de Fred Astaire, c'était pas pour moi. Ça, c'est pas...
D'accord.
Trop dur.
À 17 ans, avec la petite troupe du théâtre de l'école Notre-Dame de Bourg-la-Reine, vous avez mis en scène un caprice d'Alfred de Musset. C'était une sorte de comédie classique sur les rapports du couple. Pourquoi cette pièce? Et puis pourquoi est-ce que vous avez décidé de la mettre en scène?
Moi, je ne l'ai pas mise en scène. Toute une équipe, toute la classe. Vous savez, c'est un peu gonflé de faire ça l'année du bac de français. On devait être jugé.
Oui.
Et on avait décidé de le moderniser, de faire des tues et de changer un petit peu le texte. On était vraiment gonflé de faire ça. Pourquoi le caprice? Parce que il y avait très peu de comédiens, donc c'était plus facile à mettre en scène.
Et puis c'est une pièce qui a été importante parce qu'elle va un peu fixer votre destin. La pièce est arrivée en finale du concours interlycée. Votre interprétation vous a valu à vous le prix spécial du jury. Et l'un des membres du jury, c'était Jacqueline Joubert, qui vous avait alors demandé si ça vous intéressait de faire de la télévision. Et qu'elle lui avez-vous répondu?
Non, elle m'a dit plus exactement, vous avez une tête à faire de la télévision.
Oui.
J'ai dit, bah oui, bien sûr. Merci madame. Et elle m'a rappelé un an ou deux ans après pour passer un concours. Voilà.
Alors entre temps, vous passez quand même le bac philo et en pleine licence d'anglais, Jacqueline Joubert donc vous propose d'animer les premiers mercredis de la jeunesse.
Oui.
Vous preniez ça au sérieux ou vous disiez à l'époque que c'était une expérience?
Ah non, très sérieux. Ouais, dès que je fais quelque chose, je le fais sérieusement, c'est ça le problème.
Mais est-ce que vous considériez que c'était le début d'une carrière?
Pas du tout.
Que c'était... D'accord.
Je me suis dit, j'ai pas vraiment réfléchi, je le fais, c'est amusant, j'ai appris. Parce que je connaissais rien, je savais pas ce qu'était une caméra de télévision. Je n'avais pas la télévision à l'époque déjà, ou très peu. Et voilà, regardais très peu. Et c'était une aventure, mais de là à me dire ça va être mon métier, non. Bon. Je ne pensais pas.
Ça a duré un petit peu, hein, puisque Christophe Isard vous a demandé d'animer les visiteurs du mercredi. Mmh. Mais à la fin de la saison, on vous a remercié en vous disant que vous n'étiez pas faite pour animer des émissions pour des enfants.
Eh oui, peut-être ça, à l'époque.
Là, il y avait quelque chose.
C'est une belle trouvaille, ça. J'adore cette phrase.
Et comment vous avez réagi quand vous l'avez entendue, cette phrase?
On me l'a répété, et donc ça fait... Déjà, quand on entend, on a dit que, etc., ça fait du mal. Non, c'est la façon dont j'ai été virée qui n'était pas sympathique. Je venais chercher mes textes, on m'a dit mais tu sais pas, mais demain tu fais pas l'émission. Donc pas d'explication, pas de pourquoi, pas de... Donc là ça fait une douche froide. Donc,
toute la violence de ce milieu parfois et
oui,
la façon
on se demande,
dont on peut...
oui.
Alors sans suivre 8 mois de chômage durant lesquels vous exercez plusieurs jobs comme doublure lumière pour la télévision.
Ah oui, ça, j'ai
animatrice.
Adoré.
C'est vrai?
Ah oui, parce qu'on voyait toutes les répètes, comment tout se passait. Ça, j'ai adoré faire ça.
Animatrice dans les supermarchés.
J'ai détesté ça.
Pourquoi?
Oh ben c'est fou, faut avoir un bagou. Et puis moi j'étais, vous voulez bien s'il vous plaît? Là, bon, c'était non, j'avais vraiment pas l'envergure de faire ça.
Ouais, c'est difficile. Secrétaire dans une entreprise de robinetterie.
Les pauvres, ils s'en souviennent encore.
Pourquoi?
Bah, disons que j'avais un classement très personnel.
C'est-à-dire?
Et quelques temps après, il me rappelait encore, le dossier de Madame X, tu l'as mis où? Bah, il y a Y, évidemment.
D'accord, ok. Mais alors, à ce moment-là, quand vous avez cumulé les petits boulots pendant ces 8 mois, avant la grande réussite, est-ce que vous vous êtes dit, je vais retourner à mes études? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais m'accrocher à la télévision? Est-ce que vous saviez ce que vous alliez faire?
Non, rien du tout. Non, je voulais pas reprendre les études, ça me plaisait pas trop. Je me suis mis à trouver quelque chose à force de chercher comme ça. Je voulais pas rester sans rien faire, déjà. Puis, je me dis, il y a bien un petit coup de pouce qui va m'arriver, et voilà.
Et le coup de pouce est arrivé.
Mais je pensais pas en télé, en tout cas, c'est sûr.
Et ben, vous êtes revenue à la télé, d'abord comme speakerine sur Antenne 2.
Avant de vous laisser retrouver Jacques Martin pour la lorgnette, je vous rappelle très rapidement les principaux titres de l'après-midi, les principaux rendez-vous plus exactement. À 14h20, nous pourrons retrouver Ces messieurs nous disent, le jeu de Pierre Tchernia, Jacques Roulant et José Arthur. À 15h50, c'est Tête brûlée, un nouvel épisode du feuilleton.
Ah oui, ça, alors, les bafouillages, oui.
La speakerine Dorothée.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça?
Je ne reconnais pas ma voix.
Ouais.
Moi, j'étais la plus jeune, la petite dernière. Mais j'ai bien aimé aussi cette ambiance de speakerinariat, c'était drôle.
Oui, et puis c'est un super métier, speakerine. C'était vraiment un métier important.
À l'époque, oui.
Ouais. Oui, bien sûr. Puis après avoir été speakerine sur Antenne 2, vous arrivez comme animatrice de Récréa 2.
Récréa 2, c'est votre émission tous les jours pendant les vacances. Je ne vais pas être seule pour vous la présenter, rassurez-vous. Je suis en compagnie d'un goody-goody. Qu'est-ce que c'est qu'un goody-goody? C'est un héros gentil d'un western. Ça a de grandes jambes. Ça a une bonne tête quand même. Une peau bien bronzée.
Yeah.
Des belles dents blanches. Un regard pétillant et plein de tendresse. Et d'intelligence parfois. En un mot, c'est Gérard.
Eh bien écoute, ma chère Dorothée, moi aussi je suis très content d'être à Récréa 2 et je ne suis pas venu comme ça, j'ai apporté des petites chansons pour toi.
C'était vraiment l'âge d'or des émissions de jeunesse. Hein.
C'était le début.
Ouais.
Parce qu'il y avait pas de... L'unité jeunesse n'existait pas, c'est Jacqueline Joubert qui l'a créée. Et on oubliait un petit peu la jeune génération en fait.
Et là il y avait un coup de projecteur justement sur la jeune génération dont je faisais partie. Quelques années plus tard,
par Récréa 2, c'est
vous quittez, ouais, mais justement vous quittez Antenne 2 pour TF1 avec la création du célèbre Club Dorothée. Alors là ça a été vraiment un rendez-vous hebdomadaire. Ça a duré combien de temps le Club Dorothée?
10 ans Récréa 2, 10 ans Club Do.
Ah ouais, 20 ans. Mais quel regard vous portez aujourd'hui sur cette carrière à laquelle vous n'aviez pas forcément pensé, que vous n'aviez pas envisagé, et puis des choses qui sont allées si vite?
Disons qu'on est arrivé peut-être au bon moment, et ouais. Puis on a osé. On a osé faire des choses plus ou moins bien, plus ou moins réussies, mais on a donné libre cours à notre imagination.
Vous étiez libre de travailler comme ça?
Beaucoup plus, oui, beaucoup plus sur TF1.
Vous croyez qu'aujourd'hui ce serait quelque chose de possible encore,
bien
ce
sûr,
genre de programme
bien
nécessaire?
Sûr. Je pense, oui, je pense. Le dévidoir à dessins animés, c'est pas terrible.
Ouais. Et puis il faut un peu d'humain, quoi, un peu de chaleur.
Il faut remettre les pendules à l'heure de temps en temps.
Alors, en plus et parallèlement, Dorothée à la télévision, il y a eu Dorothée à la chanson, Dorothée et la scène, Dorothée au cinéma, un petit peu comme la série des Martines, évidemment. Et on y revient ensemble dans un instant.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
Tout le plaisir est pour nous.
Et nous sommes aujourd'hui avec Dorothée. Alors Dorothée, vous le disiez, pendant 10 ans, hein, vous avez donc animé le club Dorothée en compagnie d'Ariane, de Jackie, de Corbier, de Patrick Simpson-Jones, des musclés. Vous avez toujours besoin de travailler en équipe. Hein.
Oui,
vous êtes une solitaire dans la vie, mais pas du tout dans le travail.
Tout à fait.
D'accord. Et mon petit doigt m'a dit que certains de vos anciens collègues seraient avec vous sur scène le 17 décembre à Lille et le 18 à Bercy. Me trompe-je ?
Oui, non, point du tout.
Très bien. Ils seront tous là ?
Bah, j'espère bien.
Il paraît qu'il y a même une surprise. J'aime beaucoup d'ailleurs, Dorothée l'appelle comme ça, la surprise prévue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quelle est la surprise prévue ?
Les surprises prévues.
Oui.
Le retour d'Hélène.
Oui, d'Hélène Rollès. Ouais.
Un duo avec Hélène.
Oui, qui s'intitule « Salut, ça va ?»
Très bien, et toi ?
Bah, voilà,
parce que moi, c'est la suite de la chanson. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés.
Oui. Ça vous a fait quoi d'ailleurs, pardon, de retrouver Hélène au bout de tant d'années
C'est comme si on s'était quitté la veille,
ouais.
Comme avec tout le monde. Il y aura les musclés, Bernard Minet, Corbier, Jackie.
Et alors, est-ce que vous avez toujours le même trac ?
Ah oui, mais c'est proportionnel à la taille de la salle.
Oh là là, bah comment allez-vous alors ?
Là, pour l'instant, ça va bien.
Bon, vous avez encore un petit peu de temps, hein, je rappelle. C'est le 17 décembre à Lille et le 18 donc à Bercy. Je suppose que vous avez chanté des chansons de votre dernier album, mais est-ce que vous chanterez vos tubes qui rappellent tant de souvenirs à tous ceux qui ont grandi ?
Ah, si je ne le fais pas, je me fais tuer.
Eh ben voilà, c'est ça.
Non, ça va être surtout les anciennes chansons. Beaucoup,
vous savez
beaucoup,
quoi ? On n'a pas résisté au plaisir d'en écouter un petit peu aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. Voici un medley des chansons de Dorothée. longue. Voilà, ça c'est. Mais c'est fou les souvenirs comme ça que transportent toutes ces chansons qu'on vient de réécouter. C'est ce que vous dit le public aussi, Dorothée ?
Tout à fait.
Ouais. Il est. Qui vient vous voir en fait ? Est-ce que c'est un public qui vous a suivi depuis toutes ces années, qui vient aussi avec ses enfants ?
Exactement. Il y a les petits que j'ai connus qui faisaient moins d'un mètre, qui maintenant font 1m95 et demi. Avant c'était bonjour, ça va ? Oui. Maintenant bonjour, ça va ?
Ouais. Bah, ils muent quand même, c'est rassurant.
Et il y a les jeunes parents qui amènent avec eux les petits pour que leurs enfants voient ce qu'ils ont vu quand eux étaient petits.
Comment est-ce que vous pourriez décrire votre lien justement à ce public depuis tant d'années ?
Moi, disons que j'étais un peu l'amie. La grande sœur, j'aime pas trop parce que je veux pas remplacer, je veux pas rentrer dans le domaine familial ni remplacer les instituteurs, les profs, etc. L'amie, une grande amie, pas une confidente non plus, mais quoique. Oui, quoi j'ai eu quelques courriers très, 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 très émouvants.
Vous avez gardé justement ce courrier qu'on vous a envoyé pendant toutes ces années ?
J'en ai un peu, mais j'ai eu une inondation, ce qui fait que beaucoup de choses ont disparu. Bon, mais pas les canards.
Voilà, mais pas les canards, puisque les canards
flottent. Ils étaient à l'étage.
Et nous rappelons qu'il ne faut toujours pas envoyer de canards à Dorothée à RTL. Voilà. En 1985, Dorothée, à la demande de Georges Lucas soi-même, hein, excusez du peu, vous enregistrez la chanson du film L'aventure des Ewoks. Comment ça se passe, Dorothée ? On reçoit un jour un coup de fil de Georges Lucas
Je ne sais pas si c'est lui qui a demandé. Je sais qu'on a demandé l'autorisation de faire la chanson. Et là, il l'a écoutée, il a accepté.
Cette chanson, elle a été couronnée aux Victoires de la Musique ?
Ah oui ?
Bah oui.
Ah,
si vous l'avez oublié ? Oui, je vous le confirme. C'est quand même c'est une reconnaissance.
Ah, j'ai adoré le film, c'était trop gros.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Petits Ewoks, c'est trop mignon. Non, j'ai beaucoup aimé. Ouais.
Alors, qui dit Georges Lucas dit cinéma ? Et si vous le voulez bien, on va en parler dans un instant.
Tout le plaisir est pour nous sur RTL.
Dorothée.
Oui, vous nous dérangez tout le temps, Flavie. On papote.
On est, justement, on est ici comme à la maison avec les auditeurs d'RTL. Alors, on va ouvrir le chapitre Dorothée au cinéma.
Oui.
Vous avez tourné deux films. Oui, mais quand même, deux films. L'amour en fuite avec Truffaut en 78 et Pile ou face, c'était en 1980. Racontez-nous d'abord votre rencontre avec François Truffaut. C'est lui qui vous avait contacté.
Oui, j'étais speakerine justement et le téléphone sonne. Bonjour, c'est François Truffaut. Et il y avait une sorte de rituel chez les anciennes speakerines. Oui. C'est ça, et moi je suis Catherine Deneuve ou enfin.
Oui.
Et donc je lui raccroche au nez, bien sûr, parce que des farces on en avait. Il rappelle oui, je suis vraiment François Truffaut, etc., etc. Et après je l'ai rencontré en vrai. Et en plus, c'était la personne qui me fascinait au cinéma. Oui. Donc le voir en vrai, j'étais tétanisée.
Alors au début, vous aviez été engagée pour une simple figuration, et puis au fur et à mesure.
Pour la photo seulement.
Eh oui.
Que la photo au départ.
Et au fil du tournage, vous avez eu du texte, encore plus de texte, et finalement un vrai rôle.
Voilà.
Vous vous rendiez compte de ce qui se passait de jour en jour, que vous étiez en train de prendre de l'importance dans ce film ?
Au début, Truffaut a dit, bon, c'est bien gentil la photo, mais il faut peut-être la mettre un petit peu en scène une fois. Et ma première scène était muette, donc c'était parfait. J'ai dit, oh, mais j'aimerais bien vous faire parler un petit peu. Et tous les jours, vous avez ça pour demain. Le lendemain, j'arrivais, vous avez pris votre texte. Non, monsieur, tant mieux, j'ai changé. Et en effet, du rôle qui n'existait pas est devenu un rôle à part entière.
Et alors d'ailleurs, vous aviez déclaré à l'époque, je n'ai fait que suivre ses indications. Oui. En fait, je n'ai pas joué, j'ai seulement été celle qu'il voulait que je sois.
Oui.
Et il paraît que c'était difficile pour vous de ne pas regarder les caméras. Parce que ça a été le contraire de votre métier.
Et oui. Oui, pendant des années, c'était chercher la caméra justement. Et là, c'était ne pas chercher, surtout l'éviter. Ça, c'était une concentration difficile.
Ouais. Il était comment, Truffaut, dans le travail ?
Fantastique.
Ouais.
Fantastique. Contrairement à la télévision où tout le monde s'attrape sur le plateau.
Oui.
Bip. Là, dès qu'il y avait un petit problème, il prenait les gens à part. C'était d'un calme et d'un serein. Contrairement au film avec Robert Enrico, là, ça explosait.
Alors justement, ce film avec Robert Enrico, c'est Pile ou face. Et vous donniez la réplique à Philippe Noiret et à Michel Serrault.
Vous imaginez ?
Non, justement. Comment c'était ?
Ils ont été adorables.
Ouais.
Tous les deux.
Ouais.
Philippe Noiret d'un côté, quand il me donnait la réplique hors caméra, il avait son œil près de la caméra qui était très sérieux, et l'autre il disait tu vas te planter. Et Michel Serrault qui me donnait des conseils, non, adorable.
Vous avez l'air de garder de très très bons souvenirs de vos expériences au cinéma.
Oui.
Vous auriez aimé en faire plus?
Oui.
Et vous aimeriez en faire aujourd'hui?
Oui. Est-ce que vous voulez... Il y a des rôles pour les grands-mères, ça va, j'ai encore de la patience. Vous voulez du temps.
Non mais, et vous feriez par exemple des fictions aussi pour la télévision?
Oui.
D'accord. Et vous aspireriez à quoi, à rôle? Parce que pour quand même le dire aux auditeurs,
je ne sais pas, j'ai pas d'idée.
Vous aimez beaucoup les thèmes abordés par Jacques Pradel. Vous aimez beaucoup Jacques Pradel qui est juste avant nous sur cette antenne. Est-ce que vous pourriez par exemple jouer un rôle qui sera à l'opposé de l'image que vous avez?
Ah bah justement, ça qui est beaucoup plus drôle.
Eh ben voilà, bah c'est un appel.
Ah si c'est pas un appel, là, franchement.
Ça si c'est pas un appel quand même, si vous n'écoutez pas RTL, si vous ne comprenez pas que Dorothée aimerait aujourd'hui être sur vos petits écrans ou vos grands écrans.
Même un serial killer, dis donc.
Mais oui, justement. Eh ben très bien, vous nous tiendrez au courant. En tout cas, l'appel est lancé sur RTL aujourd'hui.
Tout le plaisir est pour nous sur RTL.
Dorothée qui est... Ben ça y est, vous êtes... En fait, vous êtes toujours... Vous avez toujours un petit peu le trac, mais enfin, là, ça y est, vous êtes...
Ah non, pas chez vous, là, pas aujourd'hui, non.
D'accord,
non.
Ok. Oh,
quand même.
Oui, je vous sens très à l'aise, là. Je vous sens...
Oui, oui.
D'accord.
Quand on est bien accueilli, il n'y a pas de problème.
Bah, exactement. En 1990, Dorothée, avec Les Musclés, vous avez représenté la France au Festival International de l'Art de Shanghai. Mm-hmm. Et en trois spectacles, vous avez complètement fait craquer les Chinois.
À l'époque, oui.
Il est comment ce public chinois?
Il faut le replacer à l'époque, hein, parce qu'il ouais. il a beaucoup changé maintenant. Mais c'était la première fois que je chantais devant un public d'adultes.
Ouais.
Donc déjà, ça se surprenait. Et la barrière de la langue n'a pas existé. Mm-hmm. La musique a fait qu'on se comprenait.
Alors vous aviez un interprète hein, qui vous traduisait certaines chansons.
Ouais.
Vous avez appris phonétiquement Nicolas et Marjolaine.
Oui.
Et personne ne s'est moqué de votre accent.
Ah, ils étaient contents que j'ai fait l'effort. J'avais le petit papier quand même, c'était en phonétique, mais... C'est pas facile, hein, le chinois.
Ça donnait quoi?
Nicolas Remachia Olan.
Ah, pas mal.
Voilà, et d'accord. Après, j'ai totalement oublié.
Et les Chinois, vous avez donné un surnom, c'était Dorothée Rock'n'Roll.
Oui, Dorothée Yaogen.
Ah bah voilà, super. Voilà, bon, on est plongé, on est à Shanghai, là, avec vous, tout va bien. Et alors, à propos de rock'n'roll, en 1993, au cours d'un Dorothée Rock'n'Roll show, vous avez chanté avec Ray Charles.
Oui.
Ça doit être un souvenir incroyable.
C'est inoubliable.
Ça donnait ceci...
Ray Charles! Thank you very much. Monsieur Ray Charles, bonne année à vous. Happy New Year to you.
Oh, darling, Happy New Year to you all over the world, all over France. I love you all. Happy New Year.
Bourrique.
Ah, on sent que ça vous fait quelque chose. Oui, j'ai bien compris que c'était pour moi le bourrique. On sent que ça vous fait quelque chose.
Oui, parce qu'en fait, quand j'étais très, très traqueuse aussi, mais ceux qui ont eu plus de traque que moi, ce sont les musiciens qui ont joué avec lui et mes choristes.
Oui, bien sûr.
Les Cossas et les Fléchettes. Alors là, ils étaient tous traumatisés. Pour une fois, je ne suis pas la seule à avoir peur. Toc.
Et alors, vous me disiez en écoutant l'extrait que ce n'était pas quelqu'un de facile. C'était quelqu'un qui était impressionnant, Ray Charles?
Très. Très, et il dégageait énormément de bons courants. Et quand il y avait une petite chose qui ne marchait pas dans l'orchestre, là, ça passait tout de suite, une chose qu'on n'entendait pas, mais lui, il entendait forcément tout. Et j'étais le voir dans sa loge, parce que Pat Le Guen le connaissait, et Pat dit, attention, elle est très émue.
Oui.
Monsieur Richard me prend la main, met sa main sur sa joue, me dit, mais t'es pas en train de pleurer? Je dis, bah si, mais non, bah faut pas, tout va bien se passer.
Un beau fort souvenir.
Oui, très très fort, mais avec toutes les personnes qui sont venues sur ces shows-là,
ouais.
Énorme.
Alors est-ce que pendant justement votre éclipse cathodique d'une dizaine d'années, vous avez pensé à toutes ces images comme ça qui ont construit votre carrière et vos souvenirs? Et est-ce que vous étiez partie vous réfugier en Bretagne, dans votre Morbihan que vous
avez... Pas du tout.
Qu'est-ce que vous avez fait pendant que vous avez manqué?
Bah, ce qui est dur à dire, c'est que j'ai vécu une vie normale. Ça veut dire quoi une vie normale? J'en sais rien. Une vie tranquille, classique, faire mes courses, me promener, voir les amis, la famille. Mm-hmm. Une vie sans avoir de planning fou
et des horaires. Bien,
Ça fait de temps en temps, oui. Un petit repos, en fait.
Est-ce que vous en avez souffert aussi, quelque part?
C'est l'arrêt brutal, encore une fois, qui fait mal, parce que j'aurais bien voulu avoir le temps de leur dire au revoir et de les préparer. Oui. Je parle du public, bien sûr. Et même pour moi aussi, pour me préparer à cet arrêt. Mais ça n'a pas été la traversée du désert, comme disent certains.
Non, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi dans la vie qui sont tout aussi importantes, évidemment.
Et
heureusement, oh là là, heureusement.
Bah oui.
Vous allez dans quelques secondes laisser un petit message sur le répondeur de cette émission, mais pour l'instant, on écoute un disque.
Tout le plaisir est pour nous sur RTL. Flavie Flamand.
Dorothée, j'ai appris que vous adoriez les répondeurs.
Non, je déteste les répondeurs.
Alors justement, pour le message traditionnel de fin d'émission, vous n'allez pas y couper. Vous avez décidé de vous adresser aujourd'hui à
Odette.
Et qui est Odette?
Ma voisine en Normandie.
Très bien, eh bien, place au répondeur, on appelle Odette.
Bonjour, laissez votre message après le bip.
Bonjour Odette, là, comment ça va-t-il là-bas? Est-ce qu'il pleut toujours autant? Et au fait, comment vont les chiens? Bisous, à bientôt.
C'était donc le message de Dorothée à sa voisine à la campagne, Odette. Vous parlez
vous avez
pas
tout
toi
compris. Bâtin.
Moi aussi, figurez-vous, parce que j'ai été élevée en Normandie, donc je connais bien le patois normand. Je trouve que vous parlez très bien le patois normand.
Un exemple. Allez.
Je vous en dirai bien, moi, mais je vous raconterai ça une prochaine fois.
Ah bah c'est pas le même accent que chez moi.
Ah bah non, bah moi je fais mon petit accent de chez moi, mon petit accent de cette campagne et de la Normandie qu'on adore. Dorothée,
oui.
Parce que tout le monde se moque de moi, bien sûr, maintenant.
Pas du tout.
Avant d'aller le 17 décembre au Zénith de Lille et le lendemain, le 18, sur la scène du Palais Omnisport de Paris-Bercy, vous faire? Vous avez un programme de répétition avec tous vos amis qui vous rejoindront sur scène?
Il faudra peut-être bien quand même. Peut-être bien. Franchement, non, ça c'est pas le même accent. Répétition, préparation, sûr.
D'accord. Avec enthousiasme, avec sérénité, avec angoisse, tous ces sentiments-là mélangés?
Dès qu'on se retrouve avec les musiciens et avec toute l'équipe, ça déjà, ça fait partie de la folie, donc ça c'est le moment que j'aime bien.
Oui, donc il faut y être en fait. Hein,
oui, mais ça j'aime bien.
Vous piaffez l'impatience?
Non.
Non, ben d'accord. Mais enfin, vous êtes impatiente quand même.
Tout vient à point.
Très bien. Ben écoutez, merci beaucoup Dorothée.
Merci Flavie,
merci
à vous.
D'être venu aujourd'hui, d'avoir passé une heure avec nous et les auditeurs d'RTL. On vous souhaite donc un bon spectacle. Tout le plaisir était donc pour nous de passer une heure avec vous tous. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez réécouter cette émission sur RTL.fr. Demain, Dorothée, à votre place, nous recevrons Bernard Lavillier.
Très bien.
Qui sort un nouvel album que je vous conseille et qui a une vie incroyable, qui nous fera partager. Je profite des quelques secondes qui me restent pour embrasser l'équipe qui m'aide toujours à préparer cette émission. Gérald Chaland, qui connaît son Dorothée par cœur. Romain Bertèche, Kervin et Alexandra Polakzik.
Oui.
Voilà. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée à l'écoute d'RTL. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec les Grosses Têtes. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain.